légèrement la tête en arrière comme s'il les dominait. En conséquence, tout le monde dans la rue Saint-Denis et ses venelles adjacentes lui vouait un profond respect où se mêlaient admiration sincère et crainte inavouée. On chuchotait beaucoup à son sujet, de préférence après son départ. Son crâne rasé et ses sourcils touffus lui prêtaient un faux air monacal, mais ses habits de métier corrigeaient vite l'impression. L'homme revêtait chaque jour cette longue cape teinte d'un bleu de lapis-lazuli nouée autour du cou et qui lui retombait sur les bras comme une toge romaine. Le col d'une épaisse chemise blanche qui dépassait de la cape lui faisait deux larges triangles sur les épaules. À la taille, il portait une cordelette où était accrochée une minuscule balance et plusieurs bourses en cuir emplies d'herbes rares ou de secrets ingrédients. Ces quelques composants qu'il ne quittait jamais, sans doute parce qu'ils étaient les plus utiles à ses préparations ou les plus dispendieux, entouraient sa personne d'une odeur remarquable, si forte qu'elle persistait encore quelques instants après qu'il eût quitté toute pièce où il s'était attardé. S'y mêlaient entre autres des arômes de safran, de mandragore et de camphre, ainsi, pour qui savait le reconnaître, qu'un léger parfum de jus de pavot. Il parlait peu, et quand il parlait, on l'écoutait cérémonieusement. Il souriait rarement, et quand il le faisait, c'était avec au bord des lèvres ce petit air narquois qui laissait supposer que pour lui la farce n'était pas celle qu'on croyait. Il ne démontrait aucune chaleur, n'avouait nul sentiment, et on ne lui connaissait pas de véritable ami. Andreas Saint-Loup, en somme, était un homme singulier, et son histoire, comme nous allons le voir, fut à l'image de cette singularité. Chapitre 2. En ce matin du 11e jour de janvier de l'an 1313, l'apothicaire n'ignorait pas en se levant que la journée qui s'annonçait ne serait pas comme les autres. Il n'eût pu deviner toutefois à quel point. Jehan, l'apprenti qu'il entraînait et hébergeait depuis 6 ans maintenant, avait achevé sa formation, comme en témoignaient les 6 petites marques gravées sur son échantillon, ce bâton de taille que portaient les jeunes gens du premier au dernier jour de leur instruction. Il avait terminé son chef-d'œuvre, et l'on devait célébrer aujourd'hui sa maîtrise, et donc son départ, avec les rites et coutumes propres à la profession. Bien qu'il pût tirer quelque fierté de cet accomplissement, ce n'était guère pour Andreas nouvelle fort heureuse. D'abord, il n'était pas friand de ce genre de célébration, qu'il tenait pour des mascarades inutiles et affectées, perversité d'un monde et d'un siècle, où se levait le serpent de la futilité, où l'apparence l'emportait sur l'essence, et il s'en fût passé volontiers. Ensuite, jeu en partie, l'apothicaire allait devoir lui trouver un remplaçant. Or, les jeunes hommes de qualité, ayant terminé des études à la faculté des arts et jouissant d'une fortune suffisante pour payer leur formation, étaient encore rares. Sa contrariété, en outre, n'était pas exclusivement motivée par ses désagréments pratiques. Bien qu'il ne lui eût jamais dit de vive voix, comme il avait horreur des démonstrations sentimentales, Andreas devait bien admettre pour lui-même qu'il allait regretter son jeune apprenti. Jehan était un brave garçon, doué et courageux. Il avait appris avec une célérité admirable à effectuer les tours de main nécessaires aux préparations. Possédait de solides notions de latin et de grammaire, ce qui lui permettait de lire aisément les formulaires et les ordonnances des médecins. Enfin, il était capable de commenter brillamment Hippocrate, Galien, Avicenne ou Dioscoride, en faisant preuve de qualité de logique et de dialectique étonnante, et même d'un esprit critique, ce qui n'était pas pour déplaire à son maître. Des 3 apprentis qu'Andreas avait formés au cours de sa carrière, Jehan s'était révélé, et de fort loin, le plus talentueux. Les 2 premiers, d'ailleurs, avaient été si mauvais qu'il les avait congédiés l'un au bout de 3 années et l'autre dès la prime. La corne du guet, soudain, sonna à la tour du Châtelet, annonçant aux Parisiens la première heure du travail. Andreas poussa un grognement agacé. Sans pouvoir se l'expliquer, il s'était réveillé plus tard qu'à l'accoutumée. Il s'assit sur le bord de sa couche surélevée et tira vers lui sa ceinture, dont il ouvrit l'une des bourses pour en extirper une petite fiole en verre soufflé. D'un trait, il but une gorgée de ce sirop visqueux qu'il préparait lui-même en faisant bouillir jusqu'à la tierce partie, du lever au coucher du soleil, des têtes de pavots importées de Turquie, ni trop vertes.